Mardi 10 octobre 2023, il est 17h, l'heure du journal en français du studio Kalangou, au micro Rafika Taher. À la une, début du retrait des troupes françaises au Niger. Les opérations pour le départ concernent les deux bases d'Ayourou et Oualem considérées comme prioritaires. Les détails dans ce journal. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée aujourd'hui. Un psychiatre rappelle à l'occasion les conséquences de la prise des stupéfiants sur la santé mentale. Et la partie magazine de ce soir nous amène à la découverte d'une femme dessinatrice à Diffa. Bonsoir à tous. Les militaires français de la base de Oualem et de Tabaray Baray, considérés comme prioritaires, vont pouvoir quitter le Niger ce mardi 10 octobre après leur ravitaillement en carburant, selon des sources sécuritaires nigériennes et françaises. Cependant, ces Français ont peu de visibilité sur les voies utilisables pour quitter le Niger selon l'AFP, car les Nigériens interdisent le survol du territoire par les avions civils et militaires français. Pour rappel, ce rapatriement fait suite aux événements du 26 juillet qui ont dégradé le partenariat entre la France et le Niger. Dans la nuit du dimanche au lundi, le village de Karkatia, situé dans le département de Bankilare, région de Tillabéri, a été la cible d'une attaque d'hommes armés non identifiés. Pour rappel, l'attaque s'est soldée par la mort de 11 villageois, 4 blessés et des animaux emportés. Les forces de défense et de sécurité déployées dans la zone concernée ont mené des opérations de recherche qui ont permis de retrouver et récupérer les animaux volés. L'hôpital du district de Filengue dispose en son sein d'une maternité de référence pour les villages environnants situés à au moins 15 km de la commune. Malgré l'insécurité, les femmes malades arrivent à être référées pour les soins, mais le manque d'agents pose problème pour la bonne marche de la maternité. Madame Andilo Zaratou, sage-femme responsable de la maternité de l'hôpital de Filengue, au micro de notre envoyé spécial Samira Rouafi.
Malgré la sécurité, vraiment, les femmes arrivent à venir et les CSI arrivent à faire leur référence. Mais il y a des zones où vraiment les ambulances n'ont pas accès. Donc de là-bas, ils ont vraiment leur système de faire référer les femmes ici. C'est toute la zone de Filengue. On fait de sensibilisation dans les villages. Il y a les relais qui interviennent dans la sensibilisation. Les difficultés qu'on rencontre, c'est vraiment l'insuffisance du personnel. On n'a pas beaucoup d'agents ici pour une répartition des tâches. Par exemple, les femmes peuvent venir et le seul agent qui va s'occuper des complications, c'est lui qui s'occupe de la planification familiale. Comme on est dans un centre de référence, normalement, on doit avoir une salle avec un agent pour la planification familiale et du côté de la maternité, toujours côté des accouchements, un agent aussi qui s'occupe des accouchements.
L'OMS a récemment autorisé un deuxième vaccin sûr et efficace contre le paludisme pour les enfants baptisé R21 Matrix M, offrant un nouvel espoir de la lutte contre cette maladie meurtrière qui a causé 619 000 décès en 2021 dans le monde. Avec des taux d'efficacité de 75% similaires à son prédécesseur, le RTSS, ce vaccin est abordable, coûtant entre 2 et 4 dollars américains par dose, soit 1 200 à 1 400 francs CFA, selon Dr Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Une fois les aspects réglementaires finalisés, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi pourront le distribuer. Ce 10 octobre est célébré de par le monde la Journée mondiale de la santé mentale, une occasion d'attirer l'attention de l'opinion sur les conséquences liées à la santé mentale souvent consécutives à la prise des stupéfiants, surtout chez les jeunes. Dr Sadou Habou, psychiatre à Maradi, explique les conséquences de la prise des drogues sur la santé mentale. Il est au micro de Sadatou Ibrahim.
La maladie mentale est une préoccupation majeure dans la région du Maradi, mais aussi à travers le monde. De nos jours, les enfants sont accros à la drogue. Sous l'emprise de ces stupéfiants, les jeunes commettent des actes contraires aux mœurs sociales. Ces drogues comme chicha, tramadol, détruisent la vie et avoir des conséquences néfastes pour la société, surtout chez les jeunes qui, à force de consommer ces drogues à long terme, vont devenir des malades mentaux.
Dans le département de Nguingimi, plus de 70% des femmes font face à des violences ou agressions de leurs époux, selon une étude faite par l'association Al-Ikhlas de Nguingimi. Une situation très inquiétante pour la communauté, a indiqué Zangi Namato, secrétaire général de l'association. On l'écoute au micro de Maïna Abdoulaye.
Les violences conjugales ici, vous allez voir un homme faire preuve d'honnêteté afin d'épouser une femme. Une fois après le mariage, il se met à la maltraiter. Surtout au fil du temps, s'ils ont beaucoup d'enfants, ils voient que la femme est fatiguée, donc ils ne l'aiment pas. C'est des violences verbales, parfois physiques même. Il cesse même de la nourrir, il ne prend pas soin des enfants. Cela n'est pas normal. Nous appelons la population à un changement de comportement. Tout parent qui te marie sa fille, il te considère comme son fils. Les parents de leur côté doivent cesser de mettre le matériel en avant pour marier leur fille. Assurez-vous que votre fille aime son prétendant d'abord.
Revenons à Filengue où depuis quelques jours, les femmes convergent vers les champs pour la cueillette du haricot. Mais force est de constater que ces femmes font face à une mauvaise récolte. Cette année, l'hivernage n'a pas répondu aux attentes des producteurs. Écoutons les explications de l'une d'elles, Achibi Adamou, au micro de notre envoyé spécial, Habibou Garba.
Nous sommes en train de récolter les nyebé malgré que la saison n'a pas été bonne. Les champs ne nous appartiennent pas. Et vous voyez déjà, le résultat est mauvais. Ça fait 3 ans que nous travaillons ici, mais on n'est toujours pas satisfait. On fait seulement avec, on ne se fatigue pas. Les champs ne produisent pas beaucoup. Quand les cultures poussent, elles meurent par la suite. Et on refait le travail jusqu'à ce qu'on obtienne un peu. Des fois, on gagne 10 tasses, 15 ou 20 tasses. On ne l'a jamais vendu. On paye les semences au marché. Cette année, ça n'a pas été fécond. Peut-être c'est lieu aux mauvaises conditions.
Dans la ville de Saï, l'une des principales activités de la population est la pêche et la commercialisation du poisson. Seulement ces derniers temps, avec les coupures et délestages d'électricité, beaucoup de revendeurs font face à des difficultés comme la conservation du poisson. Jamila, revendeuse de poisson à Saï, explique la situation au micro de notre envoyé spécial. Environ 10 personnes nous livrent du poisson. Ils viennent de plusieurs localités et des fois sans nous prévenir. On pèse et on conserve dans les congélateurs. On arrive à vendre un peu. Ce qui reste à défaut de la glace, on les frit et mon mari vend les poissons frais. Cette activité nous permet de manger, de boire et de subvenir à nos besoins. C'est notre seule activité. Ces derniers temps, c'est difficile avec les coupures d'électricité. Tu peux chercher la glace dans plus d'une dizaine de maisons avant d'en avoir. Il n'y a plus de marché. Nos clients viennent en majorité de Niamey où les coupures sont plus fréquentes. Avant, ils pouvaient payer 30 à 40 kg de poisson. Avec ces coupures, à peine ils en prennent 10 kg. Le Niger affronte la Guinée-Conakry dans une double confrontation dans le cadre du second tour qualificatif de la Coupe du monde féminine de football U20 Zone Afrique. À raison des travaux au stade général Lansana Conté, les deux rencontres d'âmes vont se jouer au stade général Sini Kountié de Niamey les 12 et 15 octobre. Shamsia est âgée de 19 ans. Elle a un talent pour le dessin et la peinture. Dans le cadre de son travail, elle a reçu le soutien de ses parents et d'autres organisations. À ses débuts, elle a fait face à des critiques du genre qu'il s'agit d'un métier pour hommes. Grâce à sa persévérance, elle s'est imposée dans ce milieu. On l'écoute au micro de Guidi Abdraman de la partie magazine de cette édition.
Depuis quand vous pratiquez ce métier de peinture?
J'ai commencé à faire la peinture depuis toute petite. Je faisais des petits dessins à la maison et petit à petit, je me suis dit pourquoi ne pas intégrer la peinture et faire comme les grands peintres. Et maintenant, ça fait à peu près 6 ans que je fais de la peinture.
Qu'est-ce que vous dessinez?
Sur une toile, je peux reproduire tout ce que je vois. Avant, je faisais mes peintures à la maison. Dans ma chambre, j'avais tout mon matériel et je pouvais passer toute la journée à le faire. Mais là, avec l'appui du projet APEJF, j'ai pu quitter ma chambre. C'est grâce à ce projet que j'ai bénéficié de cet atelier et c'est le seul à m'avoir aidé.
Quels sont vos objectifs?
Mon plus grand rêve, c'est de devenir une artiste de grande renommée. Qu'on dise que je suis la première grande artiste issue de la région de Difam et artiste femme de surcroît. Que l'on sache que les femmes peuvent aussi faire ce travail.
Rencontriez-vous de difficultés dans ce métier?
Bien sûr que les difficultés ne manquent pas dans ce travail. Par exemple, quand on veut présenter notre œuvre ou quand les gens nous voient passer la journée à gribouiller sur des murs ou sur des portes. Personne n'accorde de l'importance à notre travail. Surtout pour une femme, ils pensent que c'est plus un boulot pour les hommes. Certaines paroles sont vraiment décourageantes et parfois l'on a envie de tout lâcher et de tout abandonner. Dans le quartier et même dans la ville, ils disent « Ah voilà une femme qui fait un boulot d'homme ».
Est-ce que vous êtes connue par ce métier et qu'en est-il de la clientèle?
Ce sont des associations qui s'intéressent plus à nos œuvres ou encore des entreprises et autres services. Nous ne sommes pas tellement connus en fait, parce que nous sommes juste présents ici dans ce projet. Nous n'avons pas une galerie propre à nous, destinée à exposer et vendre nos œuvres, pour attirer les clients et liquider nos produits. Et même le fait que nous vendons très peu nos œuvres, ça nous décourage beaucoup, vu que nous n'avons pas tellement de clients. Et tout ça, c'est faute d'avoir une galerie connue et accessible à tous.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Dans un instant, les éditions en langue nationale et à 18h15, suivez le forum Espace Femmes avec pour thème la gestion des biens publics à Douchi. Quelle contribution des femmes dans une présentation de Hawa Ousmane. Vous pouvez réécouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store. Studio
Kalangu. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de tous à la FADA. Et
Studio Kalangu, au rythme du Niger.
Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.
Studio Kalangu.
À Difa,
Alternative FM 99.4 MHz à Zender,
Gaskia FM 89.5 MHz à Maradi,
Saraunia FM 102.1 MHz à Kyoto,
Bonferé Fuma 99 MHz.
Studio Kalangu.